Fabienne Synthèse, le 18-20.
Et retour à la guerre qui monopolise notre attention, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'offensive russe donc se poursuit en Ukraine au 12e jour de guerre. Et les témoignages se multiplient pour dénoncer des crimes de guerre. Plusieurs initiatives juridiques sont enclenchées, sans grand succès pour l'instant. Et on peut se demander si le droit international peut encore avoir la moindre efficacité face à Vladimir Poutine. Et c'est votre monde d'après.
La guerre, on le sait, c'est l'échec du droit. C'est particulièrement flagrant cette fois-ci. Les violations sont en fait multiples. D'abord, l'attaque russe en tant que telle viole la charte des Nations Unies, article 2 alinéa 4. Le recours à la force militaire y est restreint, limité à des cas avérés de légitime défense ou en cas de feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous ne sommes pas dans ces configurations, donc du point de vue juridique, c'est une guerre d'agression. En plus, cette agression brise des accords spécifiques signés par la Russie elle-même. Avec l'Ukraine en 1991 à Minsk, en 1994 à Budapest, ces textes garantissaient un respect mutuel de l'intégrité territoriale du voisin. Et puis bien sûr, la violation du droit, ce sont aussi, depuis le début de l'offensive, des crimes de guerre désormais documentés. Bombardements de civils, d'écoles, d'hôpitaux, notamment à Kharkiv au nord, et refus, donc on l'a entendu, d'autoriser des couloirs humanitaires d'évacuation pour les civils vers la destination de leur choix.
Et il y a donc plusieurs procédures enclenchées, mais qui ressemblent toutes à des impasses.
Alors les réactions juridiques ont été rapides. Requête de l'Ukraine devant la Cour de justice internationale, qui se penche sur les contentieux entre États. La première audience a eu lieu ce matin. Ouverture d'une procédure pour soupçon de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Là, il s'agit de poursuivre au pénal des individus auteurs de ces crimes. Ça peut aller jusqu'à Poutine. Saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, vote à l'Assemblée générale de l'ONU condamnant l'agression russe, on l'a vu à une très large majorité, 141 voix sur 193. Mais ces initiatives se retrouvent, c'est vrai, face à des cul-de-sac, face aux stratégies de Moscou, diversion, fin de non-recevoir, politique de la chaise vide devant la Cour de justice internationale, la Russie n'est pas venue à l'audience, absence de reconnaissance du statut de Rome sur la Cour pénale, négation des crimes de guerre, blocage des corridors humanitaires, sauf à ce qu'ils conduisent en Russie, un comble. Et puis, Moscou développe son propre argumentaire juridique en justifiant cette guerre présente par une menace future, celle de l'OTAN en Ukraine. Le souci, c'est que sur ce sujet, l'Occident n'est pas exempt de reproches. La guerre en Irak en 2003, par exemple, n'était pas davantage dans les clous du droit international.
Donc c'est sans solution, c'est ça? Il faut renoncer au droit, Jean-Marc?
Non, il faut surtout pas, et pour trois raisons. La première, c'est que le recours au droit est un maître étalon des démocraties. C'est ce qui les sépare de la violence d'État des régimes autoritaires. C'est pour la même raison, par exemple, qu'il faut traduire évidemment les terroristes en justice. La deuxième raison, c'est que le droit possède une valeur symbolique. Les condamnations judiciaires donnent de l'espoir aux populations agressées. Par exemple, la seule création d'un potentiel tribunal pénal international sur les crimes en Ukraine aurait valeur d'emblème. Enfin, la troisième raison, c'est que l'issue d'un conflit, in fine, passe par le droit. À un moment donné, il faudra négocier une solution, peut-être offrir une porte de sortie à Vladimir Poutine pour éviter une escalade incontrôlable. C'est pour ça que la porte du droit et de la diplomatie doit rester entrouverte. Le tragique de l'histoire, c'est qu'entre-temps, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes peuvent avoir perdu la vie.